Règle 30, il n'y a pas de filles sur Internet. À elle seule, cette règle dictée par le très sulfureux forum 4chan au début des années 2000 illustre le problème qu'a Internet avec les femmes.
Ça fait maintenant quelques émissions qu'on en parle. Les mondes numériques, sans grande surprise, affichent un certain rejet de la diversité. En tout cas, ils semblent exclure tout ce qui ne correspond pas à un homme blanc, cis et hétéro.
Si ça, on a pu l'observer avec Jennifer Lufo d'Afrogameuse en ce qui concerne l'univers du jeu vidéo, aujourd'hui, on a envie d'aller un peu plus loin sur ces sujets en s'intéressant aux communautés, mais aussi aux rouages techniques qui permettent ces dérives.
Comment on est arrivé là? À ces genres de règles définies sur un forum aussi influent? Qui sont les personnes qui sont au cœur de cette haine en ligne? Est-ce que, quelque part, les plateformes et les réseaux que nous utilisons ne favorisent pas-ils l'exclusion ou l'harcèlement de certains groupes d'individus? Quelle est la responsabilité de nos outils, de la technique, dans les formes modernes d'exclusion sociale.
Dans cet épisode, nous tenons à vous avertir que nous aborderons des cas de harcèlement et de violence en ligne. Ce ne sont pas des sujets très agréables, du coup, on tenait à vous avertir avant d'aller plus loin.
Toutes ces questions, on a essayé de les poser à Mathilde Saliou, notre invitée de l'épisode d'aujourd'hui. Mathilde Saliou est journaliste pour les médias Next et on l'a découvert à travers de son livre Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. Ensemble, nous échangeons sur le sujet de la manosphère, de biais algorithmiques et sur le numérique de demain.
Ok, je lance AZERTY.
Alors, on l'a pas précisé en intro, hein, mais le livre de Mathilde, il est très bien structuré et il permet de comprendre plein de choses, allant de la construction des communautés violentes en ligne à la critique de la conception des algorithmes, en passant par plusieurs récits racontant l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'informatique. Plusieurs portes sont donc ouvertes dans ce qui est qualifié d'enquête unique en son genre par la quatrième de couverture. J'imagine que la tâche à ces sujets ne vient pas de nulle part, alors avant d'aller plus loin, on voulait savoir qu'est-ce qui a motivé l'écriture de Technoféminisme.
En sortant d'école et en rentrant définitivement dans le milieu du travail, je rejoins très vite une association qui s'appelle Prenons la Une et qui vise à une meilleure représentation des femmes dans les médias, la production média. Et toutes les réflexions qu'on mène là-bas sur quelle est la place des femmes dans la fabrication de tous nos contenus médiatiques, mais ensuite on peut étendre à audiovisuel, culturel, etc. Et comment elles sont représentées dans ces productions. Sachant qu'en parallèle, moi, je commençais à être journaliste spécialisée du numérique, peu à peu, je me dis, mais quand même, c'est vachement proche comme problématique. Quand on parle de la transformation numérique, on parle beaucoup de la transformation de l'information, du fait que l'information, c'est le pétrole du 21e siècle, enfin, les données, c'est le pétrole du 21e siècle, etc. Et du coup, ça m'a paru de plus en plus évident que, en fait, toutes les réflexions que j'avais avec mon association, en dehors de mon temps professionnel, sur la place des femmes et des minorités, d'ailleurs, la manière dont elles sont représentées, le rôle que ça pouvait avoir dans le renforcement ou dans le recul des inégalités, et tout ça, ça pouvait aussi être transposé côté numérique. Donc j'ai commencé à le faire petit article par petit article, et puis ensuite, je me suis dit peut-être qu'il faut essayer de faire une petite somme pour comprendre comment ça fonctionne, à la fois dans nos usages numériques, à la fois dans la manière dont les outils numériques qu'on utilise pour nos usages sont construits, et donc derrière, dans l'industrie elle-même, qui construit, comment, etc.
J'ai l'impression qu'il y a, pour toi, je te prête peut-être des attentions, une espèce de manque d'appropriation peut-être des thématiques numériques dans les combats progressistes militants sur ces questions-là.
À mon avis, il y a deux types de manques. Il y a côté combat pour l'égalité, notamment combat féministe, mais pas que. Souvent, on manque, en tout cas, on a longtemps manqué des réflexions sur le rôle du numérique dans ces affaires. On manque notamment d'analyse sur le fait que, comme le numérique s'étend dans toutes les strates de la société, tous les moments de la vie, en fait, il participe aussi à beaucoup des problématiques qui sont critiquées, contestées, etc. Par exemple, dans le cas des violences sexistes et sexuelles, aujourd'hui, dans 9 affaires de violences conjugales sur 10, selon les chiffres du Centre Hubertine Auclert, il y a un pan numérique à l'affaire. Et donc, à quoi ça ressemble? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du harcèlement, cyberharcèlement, donc des sujets qui sont plutôt bien connus désormais sur la place publique. Ça peut être de la surveillance intime en mode rentrer dans les comptes de réseaux sociaux, récupérer les codes et l'accès aux comptes bancaires, aux comptes de l'administration publique, et donc vraiment rendre très difficile l'indépendance économique de la personne visée par la violence conjugale. Ça peut aussi être, à l'ère où le droit à l'avortement recule dans plusieurs pays du monde, utiliser, récupérer toutes les données collectées par nos services numériques pour aller poursuivre une femme qui chercherait à avorter. C'est présent dans plein d'endroits, en gros, et en fait dans la plupart des combats pour essayer de faire en sorte que les femmes aient autant de droits et autant de libertés que les hommes. Mais en sens inverse, je voyais aussi que dans le milieu du numérique, depuis au minimum 2013 et l'affaire Snowden, mais en fait, enfin, depuis qu'il existe des combats pour les libertés numériques, il y a encore un espèce de plafond de verre, genre une difficulté à vraiment faire comprendre aux gens pourquoi c'est problématique qu'ils soient surveillés. Mon postulat en commençant à écrire Technoféminisme, c'était qu'en prenant des cas très concrets, donc par exemple avec l'angle, avec les lunettes féministes, et ben j'arriverais à mieux montrer pourquoi tous ces enjeux de protection de la vie privée, tous ces enjeux de lutter contre le pouvoir énorme de 5 entreprises de la tech, c'était important au sens démocratique. Parce que oui, ok, je parle d'égalité femmes-hommes au début, mais en fait c'est un prétexte pour parler de la société en général et des impacts du numérique sur la société en général.
Si on s'arrête un instant, le numérique, Internet, ces fameux espaces publics numériques, n'est pas genré. D'un point de vue purement technique, je vois mal pourquoi Internet serait masculin ou féminin. Pourtant, depuis une dizaine d'années, certains coins d'Internet sont devenus des endroits de radicalisation à la haine des femmes et d'autres minorités de genre. On pourrait parler de communautés incel, les célibataires involontaires, qui se renforcent dans leur ressentiment à l'égard du genre féminin, cause de leur célibat. Ou encore les MGTOW, Men Going Their Own Way, c'est-à-dire de communautés d'hommes qui parlent ouvertement de séparatisme masculin. Tous ces groupes sont responsables d'actes d'harcèlement, attaques personnelles et aussi des tueries. Voyons alors si Mathilde peut nous donner un aperçu de comment la culture masculiniste s'est mêlée avec Internet.
En fait, ce qu'Internet a permis et ce que Internet 2.0, les réseaux sociaux ont permis, c'est à tout le monde, quel que soit son centre d'intérêt, de se réunir très facilement, sans contrainte géographique. Donc, c'est très pratique pour se réunir entre gamers, c'est très pratique pour se réunir entre fans de crochet, c'est très facile pour se réunir autour d'intérêts professionnels, personnels, n'importe quoi. Mais c'est donc aussi très facile pour se réunir entre personnes qui détestent d'autres personnes. Il y a plusieurs courants qui ont trouvé un réel intérêt à Internet, notamment les courants extrémistes, et enfin d'extrême droite, très conservateurs. Parce que à l'époque, en tout cas fin des années 90, années 2000, ils étaient quand même assez peu acceptés dans les médias traditionnels. Donc ils ont vite compris que on a une superbe infrastructure pour faire nos propres réseaux de communication, échanger, etc. Emparons-nous-en. Et c'est comme ça qu'Internet est devenu certains recoins d'Internet, certaines plateformes dont les règles de modération étaient très faibles, qui mettaient en avant une conception de la liberté d'expression qu'on pourrait débattre aussi. Et ils ont décidé de s'en emparer pour échanger sur leurs idées. Et donc parmi ces courants, il y a à la fois des courants très politique au sens traditionnel, ou enfin qu'on sait définir comme l'extrême droite, des gens voilà. Et puis il y a ces courants de personnes qui sont plus focalisées sur un truc, qui est au croisement entre ce qui ressemble à du développement personnel pour des jeunes hommes qui se disent comment devenir un meilleur homme en grandissant. Et fair enough, quand on est adolescent, on se pose plein de questions sur soi, et je comprends que puisse y avoir un intérêt et qu'on puisse se faire embarquer là-dedans. Les filles aussi se posent plein de questions sur comment devenir une meilleure fille, une meilleure femme, et en général, les garçons, ce qu'on leur recommande, c'est devenir des dieux et de renoncer à toutes leurs émotions, et les filles, ce qu'on leur recommande, c'est de se faire très jolie et de faire en sorte de séduire un homme. Et voilà comment beaucoup de problèmes se recréent. Et en fait, sur Internet, il y a des groupes qui ont tiré ces raisonnements-là vraiment de manière très 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 poussée pour arriver à l'idée que les hommes étaient victimes des femmes, en fait, que les femmes avaient déjà pris le pouvoir. Ils ont tiré ce raisonnement au maximum en disant non, mais nous, on est victimes des femmes, on devrait avoir... Ils ont une conception aussi du rapport aux femmes qui est très particulière et en fait problématique en termes de démocratique et de liberté et de conception de l'autre, qui est qu'ils auraient le droit, et en fait il serait nécessaire pour eux d'avoir accès à des femmes pour avoir des relations sexuelles. Enfin, en fait, c'est nous rabaisser au rôle de bétail. Et c'est aussi très, bien sûr, hétérocentré, donc aucune considération pour voir beaucoup d'homophobie pour toutes les personnes LGBTQIA+. Souvent, il y a des idées racistes, et en fait, on va recroiser comme ça à terme quand on tire le fil. Souvent, c'est assez proche et ça peut devenir assez pour eux avec des idées d'extrême droite, mais ça, on est en train de s'en rendre compte que dernièrement. Et donc, pendant les 10-15 dernières années, ces groupes-là, ils sont passer de petits groupes de niches perdus dans des recoins bien cachés d'Internet à de plus en plus mainstream. Et aujourd'hui, dans la culture populaire, culture pop en ligne, dans les mèmes, dans les choses qui circulent, il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui viennent en partie de ces milieux-là, malheureusement.
Quand on pose la question des groupes masculinistes à Mathilde, elle nous parle de communautés aux valeurs conservatrices, voire même à des groupes qu'on peut sans trop de difficultés rattacher à l'extrême droite. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans nos échanges à ce sujet, c'est aussi qu'elle parle de ces communautés comme étant un mal de notre époque, qu'on identifie réellement depuis quelques années, depuis le début de la décennie 2020. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que la catégorisation de ces groupes est venue assez tard ? Guglielmo et moi, on a des attaches au monde universitaire, alors on s'est dit que la recherche avait déjà dû parler de ces sujets, et qu'en réalité, c'était la sphère médiatique qui avait mis du temps à qualifier ces groupes.
Moi, je dirais même pas le milieu universitaire, je dirais les militants de terrain et celles et ceux qui réfléchissent depuis très longtemps aux inégalités, très souvent parce qu'elles les subissent en premier. Donc, par exemple, il y a eu des alertes très tôt sur le fait que c'était pas forcément des courants masculinistes, mais en tout cas des gens plutôt haineux, arrivaient à retourner le fonctionnement des plateformes sur lesquelles on échange, donc X, Facebook et compagnie, pour harceler des personnes qui leur déplaisaient. Et les premières victimes de ça, c'est des personnes qui, dans le monde hors ligne aussi, sont les personnes les plus susceptibles de subir des discriminations. Donc, par exemple, des personnes non blanches, des femmes noires, qui sont donc au croisement de plusieurs inégalités, etc. Depuis très très tôt, il y a des groupes de personnes marginalisées comme ça ou minorisées qui alertent sur le fait que les outils numériques peuvent être dangereux et qu'il faut mettre en place des outils pour aider les utilisateurs et utilisatrices à se protéger. Ces alertes n'ont pas été prises au sérieux. La raison la plus probable, pour l'expliquer très grossièrement, c'est que les personnes qui construisent ces outils, ce sont donc un tout petit milieu social, en fait c'est très principalement des hommes, des pays occidentaux, si on prend les principales plateformes qu'on utilise, j'enlève TikTok du coup pour cette explication, c'est principalement des hommes blancs américains qui sont passés à un moment ou à un autre par l'une des plus grandes écoles des États-Unis, et donc c'est un milieu social très très précis, qui en fait vit très peu déjà de discrimination hors ligne, mais donc aussi très peu des violences qui sont la traduction de ces discriminations en ligne. Donc ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas voulu comprendre, ni voulu voir l'urgence des alertes qu'il y a eu dès les années 2006-2007-2008, hein, dès le tout début de Facebook, Twitter et compagnie. Et un chiffre que j'aime bien donner, parce que ça illustre bien le truc, c'est que Twitter, par exemple, ils ont mis 7 ans avant de mettre en place le premier outil de modération sur leur plateforme. 7 ans, c'est énorme, rien qu'en termes juste de protection du consommateur. Mais c'est pas un cas spécifique à Twitter, ça illustre bien comment l'industrie n'a pas pris au sérieux les alertes sur les problématiques remontées par leurs propres utilisateurs. Pour reboucler avec la question politique, je pense qu'on a commencé à comprendre les choses dans les pays occidentaux, parce que ça aurait pu arriver avant si on était plus alerte. On a commencé à vraiment comprendre les choses quand Donald Trump a été élu pour la première fois en 2016. On a commencé à comprendre que certains des utilisateurs, certains des internautes derrière le Gamergate, notamment les plus radicalisés à fond pour défendre un jeu vidéo masculin qui ne deviendrait pas wokisé ou que sais-je, ces gens-là, ils avaient été mobilisés, ils s'étaient mobilisés aussi pour soutenir Donald Trump en mode « Make America Great Again ». Et ils n'avaient pas eu forcément cette idée parfaitement tout seul. On leur avait poussé beaucoup de messages pour qu'ils se mobilisent en ce sens, notamment à l'instigation de Steve Bannon, grand théoricien derrière Donald Trump, de comment faire en sorte pour que le camp ultra-conservateur gagne, quoi, et qui a repéré très très vite l'intérêt d'aller chercher dans ces petites communautés très actives en ligne et quel pouvoir elles pouvaient avoir sur la conversation globale, en gros.
Bon, il faut être honnête. Je ne peux pas parler de ces sujets comme s'ils ne me concernaient pas. Je suis un homme, cis, hétéro, qui a grandi avec Internet. Et j'étais une proie potentielle pour ceux qui tentent de radicaliser les hommes dans la haine des femmes. Chaque fois que j'aborde ces sujets, il y a comme un petit sentiment de malaise qui monte dans un coin de moi. Parce que même si à l'adolescence, mes valeurs étaient très éloignées de celles propagées par ces communautés, ma réflexion sur mon genre était solitaire et immature. J'étais probablement, sans m'en rendre compte, au bord de ces puits qui est la manosphère. Et c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre une chose. Comment ces hommes finissent pour y tomber dedans? En discutant avec Mathilde, les premiers sujets qui étaient sortis étaient les faits qu'aujourd'hui, dans certains cercles, c'est cool d'être anti-woke. Sûrement, si on arrivait déjà à croire que les féministes gouvernent le monde, les positions de la manosphère peuvent paraître subversives. Mais cela ne nous explique pas comment on finit par se retrouver dans ces cercles. Est-ce qu'on y arrive parce qu'on a été déjà élevé de manière un peu antiféministe ou de droite? Est-ce qu'on y arrive à cause d'un sentiment de défaite générale vis-à-vis de soi-même dans un monde que, en fin de compte, autorise cette violence? Moi, je ne sais pas plus et du coup, on essaie de creuser un peu plus les sujets avec Mathilde.
Comment on tombe dans les sujets manosphères masculinistes ? Bah, en fait, dans la société, même si les femmes ont gagné ces droits-là, il y a encore beaucoup de choses qui poussent l'idée que les hommes devraient avoir plus de pouvoir que les femmes. Par exemple, ok, depuis le MeToo, on parle plus ouvertement de violences sexuelles et on essaye, enfin certains pans de la société essayent de faire en sorte que la honte change de camp, c'est-à-dire notamment que la honte soit sur l'agresseur et pas sur l'agressé, puisque dans la société jusqu'ici, si une femme est violée, bah, déjà elle a subi cette violence qui est atroce. Et je rappelle que les violences sexuelles, c'est qualifié de torture par l'ONU. Mais en plus, qu'est-ce que dit la société ? Et ça existe encore dans plein d'endroits du monde. C'est « Ah, elle a été violée, bah elle est périmée, on va l'exclure de la société. » Enfin, essayer de lui faire sentir qu'elle est sale et qu'elle est... Oui, c'est ça, qu'elle devient périmée, quoi. Donc c'est la double peine, littéralement. La honte est imposée sur la victime. Et c'est vraiment le seul type de criminalité où la honte est sur la victime et pas sur l'auteur. Vous vous faites voler un truc, on peut pas vous dire « Ah, mais t'es nul, pourquoi tu t'es fait voler ?» On va essayer de trouver le voleur. Vous vous faites agresser, on va pas lui dire « Ah, t'es nul, tu t'es fait agresser », on va essayer de trouver l'agresseur. Et bah, le seul cas pour lequel les choses sont retournées dans la société, c'est les violences sexuelles.
Et ces groupes-là, peut-être, participent aussi à conserver ce genre d'idées.
En tout cas, ça permet de valider que, même si c'est cool, on se rend compte que c'est une contre-culture cool, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même certainement un peu de vérité si Monsieur le Président dit que Gérard Depardieu, c'est l'honneur de la France, alors qu'il est poursuivi pour viol. Ou violence sexuelle, je ne sais plus quelles sont les poursuites exactes.
Les exemples de Mathilde rentrent clairement dans ce que nous, on a toujours dit dans AZERTY, évidemment que le numérique est sujet aux problématiques contemporaines. Dans notre discussion, c'est ce que notre invité cherche à nous montrer. La banalisation et l'impunité dans les cas de VSS, surtout lorsqu'ils sont médiatisés, entretiennent un terreau fertile au développement de groupes d'hommes hostiles au progrès social. Bon alors, maintenant que j'avais le comment on tombe dans ces groupes, je voulais demander à Mathilde quelles étaient les personnes qui composaient ces groupes. Sauf qu'elle m'a très vite stoppé. On dispose de peu de travaux sur les personnes qui adhèrent aux communautés masculines. D'ailleurs, ces hommes sont souvent très réfractaires aux études sur le sujet. Mais le peu qu'on a comme étude nous montre une certaine représentation de problèmes de santé mentale. Et ça, Mathilde, ça la fait réagir.
Si on prenait plus au sérieux les questions de santé mentale, si aussi on cassait le patriarcat dans le sens où vous autres hommes, même si vous êtes persuadés d'y gagner, en fait vous y perdez aussi parce qu'une des choses qu'on vous enseigne très tôt, c'est de couper vos accès à vos émotions. Un vrai homme, ça pleure pas. Si un homme commence à montrer des émotions, on va le traiter de fillette. Donc là, on est justement sur le fait de faire une hiérarchie entre filles et garçons, mais on est aussi en train de décrédibiliser l'accès à ses émotions, etc. Et ben, en fait, en faisant ça, en bloquant l'accès de certains humains à leurs propres émotions, on est en train de construire des futures bombes de dépression et de santé mentale en vrac pour les années à venir. Et ça fait des siècles qu'on fait ça. Et typiquement, en fait, le masculinisme et notamment ceux qui vont suffisamment loin pour aller tuer des gens, c'est la version hyper grossière de ce problème qui est beaucoup plus répandu et qui, pour le coup, on n'a pas besoin d'être masculiniste pour être tombé dedans parce que c'est pareil, ça fait partie de la culture au cinéma, dans les médias, etc., de dire un vrai homme, ça connaît que deux émotions, le succès et la colère. Yes. Et le succès, c'est même pas une émotion, mais enfin, c'est ce qu'il est censé poursuivre, quoi. Et en fait, non, l'expérience humaine est beaucoup plus variée que ça, et si on l'acceptait, et si on arrêtait de le dévaloriser, notamment pour les hommes, et bah probablement qu'on arriverait à résoudre beaucoup de problèmes de violence, en fait.
Il y a une véritable exploitation de ces vulnérabilités.
Je sais pas si c'est une exploitation pensée, mais en tout cas, les discours masculinistes qui sont très anglais sur justement, c'est pour ça que je parlais aussi un peu de développement personnel au début, parce que c'est souvent tourné comme ça, sur on va vous aider à devenir mieux. Bah, quand on est dans un moment de fragilité personnelle, en mode rien ne me réussit, et notamment j'arrive pas à trouver une meuf, tout le monde me déteste, etc., bah, voir des messages en mode mais non, c'est pas de ta faute, c'est de la faute des filles, peut devenir mieux en apprenant telle et telle technique. Ça, c'est les trucs de pick-up artistes qui sont littéralement une école de l'irrespect du consentement. Ça peut être attirant, enfin oui, ça peut être attirant.
C'est vrai, je n'ai jamais été éduqué à prendre soin de moi et des autres dans le sens où Mathilde l'a dit, les soins au sens féministe. Et c'est peut-être là un des points de départ, moi numérique, qu'on devrait emprunter. Bon, en vrai, c'est là pour moi, ça ouvre en fait de nombreuses questions, certaines plus intimes, qui quand j'y pense, elles sont même un peu effrayantes, telles elles sont grandes, et d'autres plus sociales, comme la manière de nous éduquer collectivement sur les soins. Cependant, il faut dire qu'on se trouve sur un terrain très différent de celui de la ZERT classique, et moi je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à continuer par là. et en même temps, il me reste une sorte de ver d'oreille. Cette vague d'antiféminisme, avec toute l'énergie mise sur Internet, est-ce qu'elle n'est pas alimentée par quelque chose, quelques mécanismes de spécifiquement liés au fonctionnement d'Internet ?
Internet n'a pas inventé la haine des femmes, Internet n'a pas inventé le patriarcat, Internet n'a pas inventé aucune de nos structures sociales. Néanmoins, ce qu'il a fait, c'est donc nous donner des infrastructures et une possibilité d'échanger à une ampleur jusque-là inconnue, enfin, et infaisable dans l'espace physique. On pourrait pas se retrouver avec la moitié de la planète sur une place pour discuter, alors que c'est littéralement ce qui se passe sur Facebook, enfin, en termes de nombre d'utilisateurs en tout cas. Mais elle l'a fait en n'important pas forcément les mêmes règles de communication, d'échange, de respect de l'autre que ce qu'on avait en ligne. Dans les années 90, chez les vieux de la vieille, il y avait ce qu'on appelait la netiquette. Mais clairement, ce truc-là n'est pas resté. Ces règles-là ne sont pas devenues mainstream, puisqu'on a oublié le terme. Et puis, accessoirement, la manière dont les plateformes ont été construites, en tout cas les suivantes, celles plutôt aux réseaux sociaux, même s'il y a des règles d'utilisation, conditions d'utilisation qui mettent des règles précises, en fait, elles ne sont pas suivies ni par les utilisateurs, ni même par les plateformes elles-mêmes quand il s'agit de modérer. Après, on s'est aussi rendu compte que la manière dont le contenu était trié n'était pas neutre non plus, et donc notamment que tous les contenus liés au corps des femmes, etc., c'était modéré tout de suite, parce que par contre, dans les conditions d'utilisation, ce qu'il y avait aussi, c'était la conception plutôt américaine de ce qui est acceptable ou non, et donc il y avait un peu cette pudeur ou pudibonderie, comme on aime dire, je sais pas si c'est vraiment adapté d'en parler comme ça, mais pudeur américaine qui fait qu'il faut pas parler de corps et de sexualité, qui en fait a empêché plein de filles et de femmes de partager leur contenu. Alors que des mecs qui balançaient des contenus hyper haineux, eux, ils se faisaient pas modérer. Et donc, il y a un deux poids, deux mesures qui est régulièrement critiqué sur le rôle qu'ont ces plateformes, sur le type de discours qu'on peut avoir et celui qu'on ne peut pas avoir.
Le deuxième point qu'aborde Mathilde me fait penser à un concept qu'elle développe dans Technoféminisme, c'est celui de neutrasculinité. En gros, c'est l'idée que le monde numérique, technique et technologique serait faussement neutre puisqu'il est en réalité construit et dominé par une perspective masculine. Sans se pencher davantage sur la question, c'est normal de ne pas remettre en question la soi-disant neutralité des plateformes et de nos outils numériques. En vrai, ça, c'est un sujet que je trouve passionnant, qui mériterait peut-être d'ailleurs un épisode à part entière. En attendant, j'avais vraiment envie de parler de ça avec notre invité, de discuter de comment on a fait croire au monde entier que les technologies représentent un idéal juste et neutre, puisqu'elles sont le fruit de la science et des mathématiques.
On nous a présenté des outils comme c'est le produit de l'informatique, donc des mathématiques, donc c'est neutre et puis c'est plus efficace que ce que sait faire l'humain, et puis vraiment c'est tip-top quoi, adoptez-le tous, ce que nous avons fait. Mais en fait non, ça n'est pas neutre pour la simple et bonne raison que c'est des technologies qui ont été construites dans un contexte précis, par une population précise, c'est des produits de la société comme tout le reste, et donc ça embarque des visions du monde. Et donc là, ce qu'on détaille depuis tout à l'heure, c'est que ça embarque au minimum l'expérience des concepteurs principaux, donc principalement des hommes blancs de classe sociale plutôt aisée. Et ok, leur expérience, elle peut être très cool et ils peuvent être très 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 experts dans leur domaine. Mais quand ensuite ils vont dire nos services sont parfaitement efficaces et ils vont fonctionner pour tout le monde de la même manière, qui sont en gros, il y a un peu une vocation universaliste dans la manière dont ils présentent leurs outils, bah c'est faux. Foncièrement c'est faux, donc il y a tout ce qu'on a dit déjà sur la question de modération et d'orientation des discours, mais on peut prendre des exemples, puisqu'en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Si on reste sur de l'intelligence artificielle tout court et notamment de la reconnaissance d'images, on a su assez tôt que les technos qui étaient vendus comme assez super efficaces pour reconnaître des gens, qui étaient vendus soit aux forces de police, soit potentiellement aux constructeurs de smartphones pour qu'ils fassent les trucs de sécurité là, pour déverrouiller les téléphones. Si on regarde les résultats, ça fonctionne quand même vachement mieux pour ceux qui les ont construits, les mecs blancs, que pour les femmes blanches. Ça fonctionne beaucoup mieux pour les blancs que les noirs. Et donc, encore une fois, et là, on retrouve les questions de problématiques intersectionnelles, on se rend compte que les personnes les moins bien servies par ces technologies supposément universelles, c'est encore une fois les personnes qui sont au croisement de plusieurs discriminations. Et donc là, en l'occurrence, je fais référence aux travaux de Joy Boulamini en 2018, qui montraient que pour les femmes noires, les machines arrivaient à les reconnaître quasiment qu'une fois sur deux, ce qui équivaut à jouer à pile face, quoi. Donc c'est pas du tout efficace.
AZERTY. Ceux et celles qui nous écoutent depuis un certain temps les savent bien. Chez Azerty, nous parlons de reflet numérique parce que nos interlocuteurs et interlocutrices nous disent souvent que le numérique reproduit et amplifie des structures qui existent déjà dans la société et en nous-mêmes. Face au technoféminisme, est-ce que Mathilde est de même avis ?
Quand j'entends dire le numérique ne change rien, je ne suis pas d'accord. J'aurais plutôt tendance à dire il renforce des logiques de domination existantes. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que je mets l'accent sur les questions d'efficacité et neutralité supposée de ces outils, en fait, quand on les déploie, les gens qui les déploient ont tendance à le faire au motif que ça permettrait d'être plus efficace, mais ça leur permet aussi de se déresponsabiliser dans les choix qu'ils font. Donc s'il y a un problème, ils disent « c'est pas notre faute, c'est la faute de la machine ». Or, les sujets dont on a parlé, notamment si on prend les questions d'accès aux aides sociales, foncièrement c'est des sujets de politique publique, donc ça veut dire que c'est des sujets politiques, donc il faut prendre des décisions et les assumer. Ça demande des lignes claires, de trancher dans un débat extrêmement complexe, certes, mais enfin, c'est le rôle par exemple de nos représentants politiques. Et en fait, le fait de dire on a déployé cette machine et elle fonctionne mal, ça permet de dire c'est pas ma faute, c'est soit la faute du concepteur, soit c'est la faute de la machine, on sait pas pourquoi elle a bugué. Mais en fait, c'est pas acceptable ça au sein d'une société. Nous, en tant que citoyens et citoyennes, on a le droit et on a besoin de pouvoir demander des comptes. Et en fait, ce que font souvent les déploiements d'outils numériques un peu à tout va, c'est que ça nous complique à nous le fait d'aller demander des comptes. Donc en ça, je trouve que dire juste ça reproduit ce qui existe déjà, c'est oublier la partie ok, mais dans ce qui existait déjà, si quelqu'un est raciste, on peut le critiquer pour être raciste. Actuellement, on a quand même des lois qui protègent contre ça et on peut aller demander des comptes et on peut le traduire en justice. Si c'est une machine qui opère du racisme, qui est-ce qu'on emmène devant la justice ? Comment on fait pour demander réparation ? Elle reproduit des choses qui existent, elle n'a rien inventé. Ça, c'est clair et net. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur le truc, c'est pas Internet qui a inventé les hiérarchies que les humains se mettent dans la tête les uns vis-à-vis des autres. Par contre, ce qu'elle permet de faire, c'est d'avoir bon dos, c'est de déplacer la responsabilité et de dire c'est la faute des mathématiques et pas la faute de l'humain qui a fabriqué la techno. Et ça, je suis pas d'accord. Et je pense qu'en tant que citoyen citoyenne, on doit pas être d'accord avec ces raisonnements-là. Pour autant, elle a quand même été super utile sur plein de choses qu'on a aussi un peu évoquées. Elle reste utile encore aujourd'hui. Si on réfléchit encore sur des logiques de mouvements sociaux, c'est hyper intéressant d'avoir les outils de technologie les plus pointus qu'on a pour mieux comprendre ce qui se passe sur la planète et comment peut-être lutter contre le changement climatique en cours. On peut faire des choses qu'on aurait été incapable de faire à ce niveau de précision sans les outils numériques qu'on a développés au fil des années. Je pense que ça ne change rien, c'est pour dire qu'il ne faut pas tout jeter, quoi. Et ça, je suis d'accord. Le problème, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à réfléchir en tant que société et à s'emparer du sujet, surtout à ne plus le laisser dans les mains de la seule industrie, des seuls acteurs privés. S'emparer du sujet en tant que société pour dire ce qu'on veut, en fait. Là où on veut bien déployer la technologie, là où on dit c'est mort, les risques que ça provoque, arrêtez-vous en fait.
Retrouvez les thèmes et les questions abordées dans cet épisode et bien plus encore dans Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités, un livre de notre invitée Mathilde Saliou qu'on remercie chaleureusement pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si cet épisode vous a plu et que vous nous écoutez sur la bande FM de Radio Grenouille, on vous donne rendez-vous dans vos applis de podcast pour une version légèrement plus longue. Pour ceux qui nous écoutent déjà sur les applications, n'hésitez pas à partager l'émission, à la commenter, à nous mettre des étoiles et à vous abonner au podcast, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir écouté et à bientôt en podcast et sur les ondes.
Azerty.